bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 20 octobre 2014, avec Jean-Pierre en direct dans les studios et Robert en duplex pour aborder l'ensemble de l'actualité mondiale, rien de moins. Robert, tu avais un sujet pour ouvrir ce journal.
Il y a un sujet mondial, enfin planétaire, puisque il faut bien distinguer maintenant la planète Terre de l'ensemble de ce qu'on appelait jusqu'à présent le monde. Pour faire le bilan de la conférence qui s'est tenue la semaine dernière, enfin qui a duré, elle s'est conclue vendredi, mais elle s'est étalée sur 2 semaines, conférence mondiale sur la biodiversité. Ça s'est passé à Séoul, en Corée du Sud. Une grande partie des 193 pays inscrits à l'ONU étaient présents. La précédente conférence avait eu lieu à Nagoya, donc au Japon, il y a 2 ans. Et on en était resté sur un constat plutôt décevant, puisque cette conférence, si on retient bien son titre, vise à faire de la biodiversité un axe central de ce que doit être la planète demain. On en était resté à une invitation faite aux pays de faire des progrès sur les différents éléments. On va pas les résumer ici, maintenant c'est assez connu, tout ce qui tourne autour du concept de biodiversité en matière d'écologie, d'environnement, et puis tout simplement d'économie. Et c'est bien là que les choses s'étaient toujours montrées compliquées, c'est que de plus en plus, il est question de marchandiser la biodiversité. C'est-à-dire que les États sont invités non pas seulement à respecter la nature, à améliorer même le rapport de l'homme à la nature alors qu'il se détériore, mais on l'incite à le faire en lui suggérant qu'il peut à partir de là faire de l'économie. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'on transforme le rapport de l'homme à la nature en une sorte de rapport de marchandisation. Donc c'est le piège qui est dans ce genre de conférence, qui donc à Nagoya, on avait invité les peuples, les représentants des pays à ne pas trop s'engager dans ce domaine-là. Par contre, cette année, on fait un peu machine arrière, hélas, on exhorte les peuples carrément à savoir utiliser l'économie pour aller vers la biodiversité, ce qui effectivement constitue on peut dire une sorte de dérive, une dérive dangereuse, qui a été, et c'est là où cette conférence est intéressante, c'est qu'effectivement, on a vu encore à nouveau s'élever une protestation, une résistance du côté des latino-américains, des amérindiens, avec notamment les gens de l'Union bolivarienne, c'est-à-dire pour l'essentiel la Bolivie de Morales et puis l'Équateur de Coréa, et qui ont pu, en bataillant fort, qui ont pu obtenir que l'on renonce à ces fameux, ce qu'ils appellent, la conférence, les conférences précédentes avaient appelé les mécanismes de financement innovants, c'est-à-dire donc le tout économique en matière de biodiversité, et de remplacer ça par le fait que il faut passer maintenant, parallèlement à la protection véritable des ressources humaines et aussi respect des droits des communautés locales, c'est-à-dire les communautés locales, c'est des peuples entiers. Hein. Et on pense notamment, par exemple, à ce qui se passe lorsqu'on déboise, lorsqu'on détruit des forêts pour faire jaillir des matières premières ou bien pour faire passer des routes. Et ceci, donc, ça a été introduit dans la convention. Et cette convention, donc, maintenant, qui comporte cet élément nouveau, eh bien, les peuples et les pays sont exhortés à s'y atteler. Alors, on est donc passé de l'invitation à l'exhortation, mais, comme dit un expert, un expert qui est plutôt anti-libéral, il a dit, oui, mais tant qu'on passera pas à l'obligation, eh bien, on n'avancera pas très vite. Néanmoins, de l'avis des plus pessimistes, un progrès a été enregistré à Séoul la semaine dernière. Voilà pour ce dossier qui est important. C'est pas simplement le fait que des notables se réunissent pendant 15 jours. Ça va un petit peu plus loin parce que derrière, on sait qu'il y a des peuples qui se mettent en mouvement.
Voilà, autre sujet de l'actualité internationale, bien sûr, forcément, toujours l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'État islamique, donc en particulier, enfin Kobané, qu'il va falloir resituer dans l'ensemble du conflit, mais Kobané, c'est ce village à la frontière turque, toujours tenu par les Kurdes, après maintenant 35 jours de siège, hein, et fortement attaqué par les islamistes, bien sûr, qui veulent tenter de le reprendre. Alors, bon, je ne sais pas si on nous a entendus ou si les militaires ont tant d'imagination que nous, mais on avait évoqué la semaine dernière que quitte à soutenir les forces kurdes, on pouvait peut-être envisager des parachutages. Ben, ils ont fini par y penser, et 3 avions cargo, hier, ont largué de l'armement, de la nourriture, pour soutenir donc la résistance kurde face aux autres. Les Turcs n'ont toujours pas bougé, eux. Kurdes ou Bachar, c'est la même chose, donc ils ne veulent pas rendre service ni à l'un ni à l'autre. Et puis, ben, y a aussi les bombardements qui font certains dégâts, semble-t-il, dans les rangs des islamistes. Du coup, ils les appellent des renforts. Renforts qu'ils dégagent d'autres secteurs de l'Irak, ce qui arrange peut-être bien un peu les Américains, puisque pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs, et comme justement il y a le principal de l'action militaire occidentale est tourné vers le déblocage de l'Irak, qui vient de toucher d'ailleurs son premier ministre avec son gouvernement, un gouvernement de coalition qui a été enfanté dans la douleur, mais il semblerait qu'ils sont arrivés à quelque chose. Donc le but, c'est de faire diminuer la pression autour de Bagdad dans un certain nombre de villes et de régions. Et tous les moyens sont bons pour y arriver, y compris celui de laisser les islamistes s'investir sur Kobané. Voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire aujourd'hui?
On peut peut-être ajouter que effectivement c'est un léger déblocage qui demande à être vérifié, à savoir s'il est confirmé que les Turcs ont accepté une brèche dans leur dispositif frontalier pour laisser passer des Peshmerga qui sont pour l'essentiel des Syriens qui étaient déjà repliés en Turquie et qui veulent remonter au front. Alors, est-ce que parmi eux, clandestinement, vont pouvoir passer les forces combattantes du PKK, qui sont très proches des Kurdes de Syrie. Bon, c'était pas clair ce soir. Si c'est confirmé, c'est qu'il y aurait effectivement un changement fondamental dans l'attitude d'Erdogan. Et puis le deuxième aspect, c'est là aussi la confirmation est assez confuse, c'est sur le parachutage des armes Où ces âmes sont-elles parachutées? Si elles le sont sur Kobané, bien, elles peuvent aussi bien tomber entre les mains des djihadistes, parce qu'effectivement, on voit comment les djihadistes et les défenseurs kurdes sont intriqués dans la ville. Hein. Ils se contrôlent des secteurs pratiquement, ils se voient à vue. Alors, est-ce que les armes, c'est plutôt, elles ont été balancées autour de Bagdad, là où il y avait des points sûrs de réception? On n'en sait rien.
C'est peut-être bon. Kobané, mais l'un comme les uns comme les autres, ils ont des couloirs d'accès quand même. Hein. Donc les militaires ne sont pas tellement incapables de les repérer. Quoi. Enfin bon, c'est leur problème, on va dire. Voilà, est-ce qu'on n'en dit pas plus là-dessus? Bon, c'est une situation qui évolue lentement. En tous les cas, il y a une résistance, puisque la ville n'a pas encore été prise à ce jour. Quoi.
Oui, il semble maintenant acquis que Kobané ne sera pas pris. Bon, alors ça ne veut pas dire que l'avancée des djihadistes ne va pas se poursuivre ailleurs.
Un autre point chaud actuellement, c'est la Libye, avec des opérations militaires à Tripoli et à Benghazi. On peut dire ça comme ça, que ce sont des opérations légalistes contre des milices qui sont en place dans les deux régions, mais j'ai envie de dire depuis toujours, et ces affrontements ne font que se perpétuer. On observe un peu curieusement les Occidentaux vouloir s'en mêler en les sommant d'arrêter ces affrontements, et on a envie de se dire qu'est-ce qu'ils espèrent avec leurs menaces qui ne conduiront à rien. La réalité, c'est donc dans le pays cette absence de pouvoir organisé, centralisé, avec toujours l'Égypte qui en sous-main donc essaie de contrer les frères musulmans autour de Tripoli en particulier, puisque, et puis les islamistes d'Ansar al-Sharia autour de Benghazi. 5 jours de combat quand même dans cette région, avec forcément là aussi des morts des deux côtés, bien sûr. Autre sujet, Robert?
Oui, bien naturellement l'Ukraine, parce que tout simplement demain il y a une rencontre, alors c'est une rencontre à Bruxelles, je crois, puisque les Européens seront également présents à la table, mais une rencontre Poutine-Porochenko. On y discutera effectivement du problème principal, qui n'est pas forcément actuellement la situation des territoires occupés par les rebelles à l'est de l'Ukraine, mais le problème principal, c'est préparer effectivement l'hiver dans la région, c'est-à-dire l'alimentation en gaz et pétrole. Ce sera l'essentiel de la discussion de demain. Les Russes demandent que les dettes du passé soient épurées, ou pour le moins y compris d'ailleurs pour les dettes à venir, que effectivement l'Union européenne offre sa caution en quelque sorte, c'est-à-dire si l'Ukraine ne peut pas payer, eh bien il faudra que les Européens payent à sa place. On ne sait pas trop quelle va être la réaction des Européens sur cette question.
D'autant plus que, si j'ai bien compris, le gaz européen, il traverse l'Ukraine, quoi. Donc, si Poutine ferme le robinet à l'entrée de l'Ukraine, il ferme le robinet en Europe aussi. C'est ça qui doit motiver la grosse implication demain à Bruxelles des Européens dans les négociations, quoi. Alors le gaz, on va sûrement arriver à un accord, coût de millions ou de milliards de dollars ou d'euros. La paix, c'est autre chose, puisque là, statu quo, il n'y a toujours pas d'arrêt des affrontements dans l'est de l'Ukraine.
Oui, d'autant qu'il y a des élections législatives, je crois que c'est à la fin de la semaine. Alors effectivement, il y a deux partis principaux. Il y a le parti de Porochenko, parti oligarchique, et puis il y a un autre parti également oligarchique, alors lui qui se veut encore beaucoup plus violent, les deux veulent que l'entité ukrainienne ne doit pas être morcelée, mais Poroshenko est beaucoup plus souple et on sait que lui, il a en principe accepté une sorte d'idée de fédéralisme pour ce qui concerne les provinces de l'Est. Et cette rencontre demain, c'est une manière aussi de dire aux Ukrainiens, votez Poroshenko, c'est-à-dire son parti. Lui, il est déjà élu président, mais votez pour son parti, c'est l'indication qu'on peut retenir. Et puis le deuxième point important, c'est que on a parlé du gaz et du pétrole. Pour l'instant, semble-t-il, le prix du gaz n'a pas changé, mais le prix du pétrole, lui, a baissé mondialement. Et donc les prix fixés par les Russes sont à rediscuter eux aussi. Et puis en même temps, pour les Russes, c'est un problème important parce que ça va être une réduction des profits qu'ils tiraient de la vente des produits pétroliers.
Oui, déjà que les sanctions européennes semblent faire leurs effets, avec par exemple des cours de la bourse en Russie qui ont beaucoup chuté, donc d'énormes difficultés pour les transactions et les transferts industriels entre la Russie et ses clients et ses fournisseurs aussi. Donc tout ça met un peu de pression quand même sur Poutine, quoi qu'on en dise. Quoi.
Oui, à la limite, un rouble dévalué, alors évidemment il a été fortement dévalué par toute cette situation de guerre, mais favorise les exportations. Bon, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que ce qu'il peut perdre sur le prix du pétrole, il peut le regagner grâce à la dévaluation de fait du rouble.
Voilà, autre sujet, on parcourt un petit peu le monde, on va dire un mot du Mexique et de ces 43 étudiants qui sont disparus le 26 septembre 2014, dont on est sans nouvelles et dont on peut penser qu'ils ont été soit capturés et pris en prisonniers des groupes mafieux du cartel de la drogue, entre autres les Guerriers Unis bien connus là-bas, ou alors ils ont carrément été tués lors d'affrontements, puisque c'est lors de manifestations qu'on a noté leur disparition. Donc à l'heure qu'il est, le gouvernement mexicain n'a pas de nouvelles et n'est pas en mesure de pouvoir dire ce que sont devenues ces 43 personnes.
Un mot peut-être aussi du Brésil, puisque on prépare le deuxième tour de l'élection présidentielle, et on sait qu'en même temps c'est les régions et aussi les députés et un tiers du Sénat qui sont renouvelés, mais le grand enjeu, c'est savoir si la gauche qui a fait les réformes et qui a permis que 50 millions de Brésiliens sortent de l'illettrisme et de la misère, et bien cette gauche-là du Parti du Travail va remporter l'élection avec Rousseff, ou si c'est une social-démocratie de droite qui récupère tous les autres mécontents, c'est-à-dire des classes moyennes nouvelles qui sont nées d'ailleurs paradoxalement grâce à l'enrichissement provoqué par les politiques économiques du Parti des travailleurs. Autour des Neves se regroupe avec la bourgeoisie et puis des mécontents naturellement. C'est normal, 12 ans de pouvoir, ça use, et il y a des mécontents qui sont mécontents avant tout, veulent que les têtes changent, sans se rendre compte forcément des conséquences que ça peut avoir pour eux-mêmes, selon qu'ils sont pauvres ou selon qu'ils sont riches. La candidate Marina De Silva, qui est arrivée troisième avec ses 20%, a dit qu'elle se ralliait, elle appelait, discrètement, à ce que ses électeurs électrices votent pour Neves. Ce sont des écologistes, ce sont des sociaux aussi, qui ont eu souvent maille à partir avec les grands trusts et les grandes multinationales, et c'est pas dit que Enfin, on pense que l'électorat de Da Silva va se partager. Mais toujours est-il, du coup, c'est selon les sondages, on est à 50-50 et donc rien n'est joué. Rien n'est joué. Le peuple est sorti de la misère. Il ne faudrait pas qu'il y retourne avec une droite qui finalement serait dure parce qu'elle remettrait en cause, quoi qu'elle en dise, la plupart des acquis sociaux. Et puis il y a cette image un peu extraordinaire de ce grand continent sud-américain où les trois grands pays sont gouvernés par des femmes, que ce soit l'Argentine avec Cristina Kirchner ou que ce soit le Chili avec Michelle Bachelet ou que ce soit peut-être encore demain le Brésil avec Dilma Rousseff. C'est quand même une situation pour le moins extraordinaire, on peut le noter.
Extraordinaire ou normal?
Normal en fait, elle est normale. La démocratie a conduit à cela et ça c'est normal. Par contre, c'est ce qui est anormal, c'est pas anormal, mais c'est extraordinaire, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est des situations qu'on pourrait même pas imaginer en France actuellement. Et qui fait que, et puis en plus dans un pays qu'on traitait toujours comme des pays marqués par un certain machisme plus ou moins imbibé de catholicisme ou d'autres cultes.
Voilà, une information sur la Chine qui vient d'ouvrir son quatrième plénum du comité central avec sur fond de d'épuration des cadres corrompus. Est-ce que ceux qui limogent les corrompus sont moins corrompus que les corrompus? C'est pas sûr, mais en tous les cas, dans cet énorme pays aux énormes intérêts et transactions, il y a une classe politique qui est, bien que communiste, largement corrompu. Xi Jinping, président, n'étant peut-être pas le dernier. Enfin, on va voir ce qui sort de cette réunion-là, si vraiment on va faire le ménage. Puis en Indonésie, un nouveau président, Joko Widodo, a été intronisé aujourd'hui. C'est le grand espoir pour les journalistes français arrêtés, puisque deux journalistes qui faisaient un reportage sur les rebelles de Papouasie ont été arrêtés comme espions, enfin non autorisés, tout ce qu'on veut, ils risquent des années de prison. Et ce nouveau président qui s'est annoncé, du moins dans ses effets d'annonce, comme beaucoup plus ouvert du côté de la liberté de la presse, pourrait, on va le voir, faire un geste pour libérer des journalistes qui ne faisaient que leur travail, même si ça ne plaisait pas complètement au pouvoir en place.
C'est ce que je reviens juste en une phrase sur ce que j'ai dit à propos des trois présidentes sud-américaines. Bon, c'est pas, bon, je dis que c'était extraordinaire des femmes, mais c'est surtout, ce qui est le plus important, et je ne l'ai pas dit, c'est que ce sont des régimes progressistes et que ces trois femmes sont à la tête de régimes progressistes.
Voilà, on va dire un mot d'Ebola. On ne sait pas ce qu'il faut penser, parce que certains crient à l'hystérie en disant finalement, Ebola, c'est quoi? C'est 4000 morts, la grippe en fait des dizaines de milliers tous les ans, et on n'en parle pas tant. D'un autre côté, le degré, quand les gens sont contagieux, c'est extrêmement redoutable, puisqu'il suffit d'être dans la proximité de quelqu'un en phase d'incubation, enfin qui commence à avoir de la fièvre pour être malade à son tour, sans même avoir eu des relations intimes ou proches avec lui. Donc l'OMS parle de la plus grave urgence sanitaire des dernières années, et pour le moment, en termes de nombre de personnes concernées, ça reste restreint, quoi. Alors, bien sûr, tout le monde craint que ça se répande, mais est-ce que cette crainte est instrumentalisée, est-ce qu'elle est exagérée? C'est des questions qu'on peut se poser. Voilà, l'Europe peut-être un peu, Robert, avec...
Juste avant, bien que ce soit là, à la frontière de l'Europe, c'est annonce des Britanniques qui reconnaissent l'État palestinien. Et alors, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on se demande à nouveau toujours... quand est-ce que la France s'y résoudra, la France, les gouvernements français sociaux-démocrates qui ont vraiment trop peur de faire de la peine à leurs amis israéliens.
Oui, alors ben, on va pas aller très loin du Royaume-Uni. En Irlande, bon, on nous annonce que maintenant le pays va mieux après les restrictions qui ont été mises en place, paraît-il. Le déficit public est tombé à 2,7%, de quoi faire rêver Hollande et Macron. Et donc une croissance est prévue de 5% en 2014, avec un chômage qui a baissé de 4% en 3 ans. Donc l'Irlande irait mieux. L'Irlande, ce paradis fiscal d'il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu'il ne reste pas d'ailleurs un paradis fiscal, ce qui pourrait expliquer en partie son redémarrage, ce serait à analyser de près.
Pour les sociétés multinationales, oui, je crois. Et puis les entrepreneurs qui s'installent là-bas, ils ont toujours des situations par rapport à l'impôt qui sont du niveau d'une forme de paradis fiscal. Oui. On parlait de la Grande-Bretagne, mais ça bouge dans la rue. Et une grosse manifestation la semaine dernière, 80 000 personnes, je crois, qui étaient dans la rue pour demander une augmentation de salaire, alors que on nous vante une Grande-Bretagne qui donne l'exemple. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de l'Allemagne, qui connaît une grève sans précédent depuis plusieurs années dans le domaine des transports. Les Allemands, en Allemagne, les Allemands qui réclament une augmentation de salaire, eux aussi, 5%, oui, et puis une réduction du temps de travail. Comme curieusement, à Bruxelles, on fait la sourde oreille. On n'entend pas ces cris qui montent des peuples. On continue de marcher dans le strict sentier de l'austérité partout. Et travailler plus, gagner moins, c'était le slogan de Sarkozy, qui était un slogan européen, finalement.
On reviendra à l'Allemagne avec la présence à Berlin de Sapin et Macron aujourd'hui. Allez, pause musicale, on va la faire sur fond, un clin d'œil, on va dire, un peu humoristique, sur fond d'actualité française. C'est Maurice Fanon qui, sur sa musique, sur ses paroles et sur la musique d'Oswald Andrea, chante sa chanson Martine.
Martine reviendra danser dans les roseaux de ma jeunesse. Quand Martine reviendra me prendre au fil de l'eau de sa tendresse. Martine reviendra sur la pointe des yeux, se poser sur mon doigt comme un papillon bleu. Martine, je suis là de chercher après toi quand il pleut. Martine reviendra jouer sur les temps froids de ma tristesse. Quand Martine reviendra couper mon ciel en trois d'une carte. caresse. Quand Martine reviendra, mon papillon blessé, Martine, il ne faut pas les laisser t'abîmer. Martine, ces gens-là vont te tuer. Martine, Martine, et je t'aimais,
écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, Canu Info du 20 avril 2014 avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour aborder maintenant l'actualité nationale. Bon, ben ça y est, le sujet est lancé, quoi. Martine, c'est pas de la même dont il s'agit, mais on peut trouver des correspondances. Donc Martine monte au créneau et prépare 2017. Elle s'est fendue d'une déclaration pour un petit peu animer le paysage médiatique, sans pour autant avoir des revendications si radicales qu'on pourrait le souhaiter ou l'espérer, puisqu'elle ne rejoint pas les positions du Front de Gauche pour autant, mais elle critique amèrement les choix de Hollande. On sent aussi là derrière, soit elle prépare sa candidature, soit elle sent venir une nouvelle déculottée aux prochaines élections de 2015, et elle essaie de restructurer un peu le Parti Socialiste autour d'une autre ligne pour ne pas pour limiter les dégâts à ces élections, quoi. Hollande ne s'en laisse pas compter, elle la renvoie un peu dans les cordes avec Macron en disant que la politique qu'il fait est la bonne et on n'en changera pas. Voilà. Alors Hollande, il s'en fout. Aujourd'hui, il avait mieux à faire comme occupation que de faire de la politique. Il était parti faire du tourisme chez Louis Vuitton, la première fortune française. Louis Vuitton Arnault, qui inaugurait les bâtiments de son nouveau musée à la limite de Paris, dans le bois de Boulogne. Ça, c'est primordial pour la vie des Français. Voilà, tu avais peut-être quelques commentaires à faire.
Oui, d'ailleurs, cette visite de Hollande, elle est contradictoire naturellement avec le thème de sa campagne électorale, où il voulait mettre à genoux la finance. Et puis aussi, il faut bien se dire que ce qui est investi dans Vuitton par Papineau et les autres, ben c'est l'argent, c'est la sueur des travailleurs, parce que les profits de l'entreprise, eh bien, ils sont plus partagés avec le monde du travail, ils ne vont plus non plus dans les caisses de l'État, ils vont directement dans la poche du patron, qui lui, alors, grand mécène, donc avec la sueur et le sang des travailleurs, eh bien, ouvre un magnifique musée dans lequel se complaît Hollande. C'est un côté pour le moins pas très beau à voir. Sur le fond politique, effectivement, le surgissement de Martine Aubry a surpris. Bon, est-ce que vraiment ça a surpris? Pas forcément, mais effectivement, il y avait hier cet entretien dans le journal du dimanche où on employait le mot pourfendait. Moi, j'ai un peu lu, j'ai pas tout lu, hein, j'avais pas le journal, mais bon, elle critiquait. Mais de là, la presse a dit qu'elle pourfendait, qu'elle avait mis en pièces la politique de. J'ai pas lu ça, mais bon, admettons. Et aujourd'hui, effectivement, ce matin, sur une radio, elle a dit bon, effectivement, je critique, il faut changer de politique, mais de toute façon, on fera tout pour que Hollande, et on l'aidera à ce qu'il réussisse son quinquennat. C'est extraordinaire comme vocabulaire, quoi. Alors, on le critique, mais en même temps, on le pousse, on fera tout pour qu'il réussisse. Donc, c'est-à-dire pour qu'il fasse que ce qui lui semble bon de faire. Sur la... La reconstruction du Parti Socialiste, notamment de sa gauche, alors on comprend Aubry qu'elle n'a pas tellement envie de devenir la cheftaine de la gauche
socialiste,
parce que elle est divisée. Ses frondeurs, eh bien, on peut y trouver un courant Montebourg, on peut y trouver un courant Hamon, on peut y trouver un courant Filoche et un courant Morel. Et sur beaucoup des points, j'en prends qu'un qui est très connu, c'est le nucléaire. On sait que entre Montebourg et Filoche et puis d'autres, c'est le divorce total. Et il n'y a pas que sur ce point-là que tous ces courants dits de gauche du PS, frondeurs, puissent s'entendre. Donc on comprend bien qu'elle ne veut pas jouer l'assembleuse de cette diversité. Voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça va donner?
Comme tu l'as dit,
je crois qu'elle se positionne pour... elle veut essayer peut-être déjà l'année prochaine faire que la chute soit moins brutale pour le PS.
Ben oui, c'est important, les élections de 2015, hein, toutes les élections régionales. Alors, il y a cette réforme constitutionnelle, justement, à ce sujet. Alors là, il est en train de nous pondre un truc, Valls, les conseils généraux, donc on va les supprimer, mais on va faire une réforme à géométrie variable complètement imbitable. Hein. On laissera les conseils départementaux, on les appellera comme ça, dans les départements, on va dire, ruraux, la moitié à peu près de l'ensemble. Dans les métropoles comme Lyon, on va créer une structure politique nouvelle qui assimilera la métropole et le département, donc c'est le cas de Lyon. Et puis il y aura aussi dans les départements où il y a plusieurs intercommunalités importantes qui existent déjà, je pense peut-être à Saône-et-Loire avec Chalon, Creusot, Monceau, on va créer une intercommunalité fédérative, donc qui aura aussi des règles de fonctionnement et j'imagine d'élections différentes. Alors ce genre de millefeuille en politique, ça ne peut intéresser que les gens des instituts de formation politique, parce que le grand public va absolument rien y comprendre et il aura bien raison, parce qu'il y aura, ce sera incompréhensible. Enfin, il semble que le PRG, lui, ça lui convient bien, parce que dans tout ça, il pense conserver ses précarés et c'est ce qui est important pour lui, quoi. Mais voilà, une réforme dont on aura l'occasion de reparler, mais qui nous semble d'un fumeux à peine croyable. Faut qu'on dise un mot aussi de ce qui se passe à Berlin, donc avec la Commission européenne, où on a envoyé nos deux fantassins, Macron et Sapin, pour aller expliquer aux Allemands qu'on voulait bien réduire notre budget national de la France de 50 milliards, mais qu'en échange, il faudrait qu'ils investissent 50 milliards en France, dans l'industrie. Alors ça, c'est pas gagné. Hein. Je pense que les Allemands, ils vont répondre que c'est pas aux Français qui sont pas foutus de tenir leurs engagements, de venir donner des leçons et d'avoir des exigences auprès de l'Allemagne. Quoi. Enfin, tout ça, c'est un objet de négociation et on attend l'avis de la Commission européenne sur le budget français, qui pour le moment n'est pas négatif, mais qui pourrait l'être. Et avec à l'atelier, ça je trouve assez merveilleux. Si le budget correspond pas aux règles attendues, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pique un peu de pognon au pays en question en lui foutant une amende. C'est sûrement pas ça qui va lui permettre de se relancer dans le droit chemin. Mais c'est comme ça chez les financiers. Ils connaissent que ces méthodes-là.
Le seul point qui peut apporter à Macron et Sapin quelques satisfactions, c'est de voir que les travailleurs allemands sont très mécontents de leur situation sociale. Là aussi, contrairement à tous les discours ambiants sur on doit faire comme l'Allemagne, regarder comme l'Allemagne et pacifique. Les gens, bon, c'est plus du tout ça. Il semble que l'Allemagne est en train de connaître une entrée assez désagréable. Alors, c'est pas la même forme de crise, mais c'est une crise quand même, parce que l'austérité, les Allemands comprennent pas du tout ce que ça pourrait bien vouloir signifier pour eux. Ils le voient tous les jours, parce qu'effectivement, sur des aspects sociaux, et puis il y a aussi sur l'aspect de la rémunération du chômage, nous savons, et les conditions d'emploi. Il se passe des choses. Alors Macron, il veut surfer là-dessus. D'ailleurs, ce Macron, il fait penser, il a l'air aussi agité que Sarkozy. Hein. Il y a du sarkozisme dans ce Macron, ce qui fait que c'est un type, très, à mon avis, très dangereux. Enfin, oui,
déjà, pour commencer, c'est un agent de la banque Rothschild. Hein. On en avait déjà connu un en d'autres temps, c'était Pompidou, comme ça, qui était arrivé au plus haut niveau. Et lui, ben, il a une idée par jour, Macron. Hier, il voulait, ou avant-hier, démanteler la SNCF un peu plus, à savoir autoriser les autobus à piquer toutes les petites lignes de la SNCF, remplacer les trains par des cars qui sont évidemment des activités de sociétés privées et non plus nationales comme la SNCF. Bref, une manière sournoise de s'en prendre une fois de plus à la SNCF, service d'État, au profit d'une privatisation du transport pour les travailleurs qui font des petits trajets donc pour aller au boulot.
Ce qui peut aussi se passer à Bruxelles, c'est que Juncker, ça n'est pas Barroso, même s'ils appartiennent au même monde libéral et défendent prioritairement les intérêts du capitalisme. Il n'empêche que Barroso, il avait tout aussi bien le traité de Lisbonne, tout ça, pour lui c'était la doxa, c'est incontournable, faut le faire, etc. Et bon. Avec Juncker qui est à la tête d'un paradis, qui a été longtemps responsable d'un paradis fiscal, le Luxembourg, il n'a pas la même démarche. À la limite, lui, le coût des 3%, c'est pas son problème le plus important. Ça ne veut pas dire qu'il va ouvrir grand les portes à l'investissement un peu partout, mais c'est certain que. D'ailleurs, la Commission y est contrainte par la conjoncture et aussi par un peu de résistance du côté du Parlement européen pour que l'investissement prenne un tour plus important.
Voilà, tu avais un peu de social aussi, moi j'ai Caddy là qui attendait leur réponse aujourd'hui du tribunal pour savoir à quelle sauce ils allaient être mangés, c'est-à-dire liquidation ou reprise d'activité avec pas mal de licenciements, mais j'ai pas eu le résultat avant le début de ce journal. Tu avais d'autres sujets comme ça?
Le repreneur sur les 400, de n'en reprendre qu'un tiers, proposition. Ou la moitié peut-être, oui. La semaine dernière est intervenue une autre décision du tribunal de commerce, c'est à propos de GAD, les Bretons de la volaille ou du porc, je ne sais plus, c'est du porc, GAD. Et effectivement, c'est d'accord pour que Intermarché reprennent GAD, mais sur la base de 530 emplois, alors qu'il y a actuellement 755 emplois. Donc là encore, un gros écrémage. Faut rappeler que GAD, il y a encore peu de temps, qu'on avait 2000 salariés. Bon, et Intermarché par la filiale Jean Rosé va donc s'occuper des affaires de GAD. On peut dire peut-être un mot aussi du budget qui se discute parallèlement de la sécurité sociale. Jeudi dernier, il y avait des manifestations un peu partout en France parce qu'effectivement, il faut trouver des sous. prétend-on. Il y en a des sous, on peut trouver des sous, mais pas où ils sont. On veut toucher effectivement l'ensemble du peuple sur diverses allocations ou sur poursuivre une politique de déremboursement. Enfin, il y a discussion du budget sécurité sociale en cours, avec donc des manifestations à la clé. Et puis, c'est un peu la même chose. Cette enquête d'ATD Carmonde, on en trouve d'ailleurs une analyse dans l'Humanité d'aujourd'hui, ATD Carmonde qui chiffre et schéma à l'appui montre que effectivement, et on le savait, mais que la pauvreté ne cesse de progresser en France. Et bon, il n'y a pas qu'en France, mais ATD Carmonde s'intéressait là, dans l'occurrence, de ce qui passait en France et qui faisait apparaître ce que dit par ailleurs, par exemple, le Crédit Suisse dans une autre étude, qui remarque, mais là c'est l'échelon de la planète, qu'il y a de plus en plus de riches, et donc par voie de conséquence, de plus en plus de pauvres. Et qu'entre les deux, il y a une des classes moyennes qui se créent, qui se dédoublent, qui cherchent leur voie et qui, effectivement, mettent mal à l'aise l'ensemble des structures démocratiques.
On va redire un mot du grand rassemblement contre le barrage de Sivens. Hein, c'est samedi, alors bon, c'est pas tout près de Lyon, mais vous pouvez soit faire le voyage, soit faire part à vos amis là-bas, entre Albi et Toulouse, hein, près de Gaillac. Qu'est-ce que c'est que ce barrage de Sivens? C'est le 1er septembre, le Conseil général du Tarn a décidé de passer en force avec le préfet pour commencer les travaux du barrage de Sivens. Un déboisement en limite de zone humide a commencé sous la protection de 200 flics, plus de 200 opposants de leur côté, y compris des représentants d'associations écologiques, d'attaques, de la Confédé paysanne, étaient sur place et ont essayé de s'opposer donc à démarrage de ce chantier. Le projet est présenté comme un projet d'intérêt général qui, en fait, est surtout destiné à 70% pour l'irrigation intensive d'une vingtaine de fermes et à 30% à ce qu'ils appellent le soutien d'étage, c'est-à-dire la dilution des pollutions. Plus facile de les diluer que de les empêcher. Donc un projet qui est dénoncé comme inadapté, dont le coût financier est élevé, dont le coût environnemental est élevé, au profit de pratiques agricoles qui sont discutables, voire inadmissibles, aussi bien pour les agriculteurs que pour la société. Voilà, donc c'est cet rassemblement qui aura lieu samedi à midi, qu'on tenait à évoquer, bien sûr, ici. Voilà,
à propos des passages en force, eh bien, on rappellera qu'il y a ce qui s'est passé, eh bien, tout près, à Decines, hein, avec le passage en force des bulldozers travaillant pour le grand stade de l'Olympique lyonnais sur les terres de Philippe, l'agriculteur éleveur, Philippe Laya, qui est un des derniers résistants. Ça nous rappelle les résistances au Larzac, et qui a résisté, mais qui n'a pu empêcher que l'on traverse avec une route ces terres, tout simplement parce que d'abord il était débouté, et les actions qu'il mène en justice, eh bien, elles ne sont pas suspensives des travaux, donc les travaux peuvent se faire. Et puis ben, je crois que Philippe Layom, mais je pense que vous en avez longuement parlé, je pense à Radio Canu.
Voilà, deux infos culturelles, c'est les vacances, il n'y a pas grand-chose, alors autant profiter de ce qu'il y a. Il y a le fameux Salon du Sud-Est qu'on a connu sur les quais de Saône, mais compte tenu de la réhabilitation de la salle Molière là-bas, La 87e édition aura lieu à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or. L'entrée est libre, mais il faut pas trop traîner parce que c'est du 17 au 30 octobre. Il n'y a que deux semaines cette année pour ce Salon du Sud-Est à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or. C'est un grand bâtiment qui est du côté du boulevard des Belges et du boulevard Stalingrad, là, un petit peu à l'angle. Et puis si vous êtes un inconditionnel fanatique de Jean Ferrat et que vous ne vous êtes jamais remis de sa disparition, eh bien le 25 octobre aussi, vous pouvez même faire d'une pierre deux coups, à 15h dans la salle de l'Amicale Laïque de la Croix-Rousse, 8 rue Hénon dans le 4e, il y aura un récital Jean Ferrat avec des chanteurs locaux, André Avon, Mireille Descours, José Marie, Yvan Rousset, Gisèle Vaillot. Accompagnement au piano Christian Pizot, entrée libre, boisson et tombola. Je ne vous garantis pas que ce sera très rock, mais Jean Ferrat n'a jamais été très rock. Voilà, ce Canu Info se termine. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez aussi pouvoir l'écouter sur Internet un peu plus tard ce soir. Et nous vous souhaitons une bonne semaine, même une bonne quinzaine, parce que la semaine prochaine, exceptionnellement, nous serons absents. Bonsoir.
If you want you to care, whatever you go do, say that your judge are watching you. Lie low when you want me, bring me cellular. Tell me why you want me cellular. Ain't I have no behavior.
When you want, hey, when you want me cellular.
Lie
low, hey, when you want me cellular.
Lie low,
woke up on the big tomb.
Lie low,
hey, when you want me cellular.
Lie
low, when you want me. One man on your nursery for no quarter. One y'all in mana mana beggar.